France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mardi 5 mars. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la décision surprise de la justice japonaise. Carlos Ghosn devrait être sorti de prison dans les heures qui viennent après le versement d'une caution. L'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan sera soumis à un contrôle très strict. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Les détails de la déclaration d'Emmanuel Macron aux citoyens européens. Le plan social de Ford, officiellement lancé pour les salariés de Blanquefort. Quand une banque française finance une licence sur le développement durable, et puis les ados des années 90 n'en finissent pas de pleurer Luc Perry alias Dylan de Beverly Hills.
Les invités de France Inter ce matin, bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
Une journaliste américaine, c'est elle qui a popularisé cette formidable expression de man-interrupting. Vous savez, le fait que les hommes interrompent beaucoup plus volontiers les femmes. Aujourd'hui au New York Times, elle s'assure par exemple que les femmes sont autant interviewées que les hommes, que le traitement de l'information est équitable. Elle s'appelle Jessica Bennett et nous l'avons rencontrée.
A tout à l'heure Alexandra, 8h20, liberté, protection, progrès. Emmanuel Macron défend dans la presse des 28 États membres une renaissance européenne. Qu'en pense François-Xavier Bellamy, tête de liste, Les Républicains? Réponse dans le grand entretien de la matinale. Vos questions, le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
France Inter.
La troisième demande aura donc été la bonne. Après deux refus, le tribunal de Tokyo a accepté ce matin la remise en liberté sous caution de l'ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn pourrait donc sortir de prison dans les heures qui viennent, moyennant le versement d'une caution de 8 millions d'euros. Carlos Ghosn est incarcéré depuis 3 mois et demi, soupçonné d'avoir minimisé ses revenus chez Nissan pendant près de 10 ans. Yann Rousseau, vous êtes le correspondant des Échos à Tokyo. Yann, comment expliquer ce revirement de la part de la justice japonaise?
Oui, c'est plutôt une surprise, hein, parce qu'on avait vu son nouvel avocat. Vous savez qu'il a changé d'équipe il y a 3 semaines, hier, et son avocat n'était pas très optimiste, même s'il était plus optimiste que son ancienne équipe. Il disait que ça restait très compliqué, c'est-à-dire qu'il est très rare que des personnes mises en examen qui refusent d'avouer soient autorisées à sortir de détention avant le procès. Mais finalement, ils ont réussi visiblement à faire la preuve que Carlos Ghosn n'allait pas se soustraire à la justice et qu'il allait être bien présent à son procès et qu'il n'allait pas essayer de truquer des preuves.
Il est donc, Yann, assigné à résidence dans des conditions très strictes. On pourrait presque parler de prison à domicile.
On n'est pas loin de ça. Il n'aura pas un bracelet électronique. Il ne sera pas forcément obligé d'aller pointer chaque jour au commissariat. Mais il devra rester à Tokyo. Il ne pourra probablement pas sortir pour aller dans d'autres. Il pourra rester dans la ville, mais il devra dire où il va. Ils ont fait la preuve qu'il n'allait pas s'échapper, qu'il n'allait pas truquer des cautions. Il a notamment promis d'installer des caméras dans la résidence dans laquelle il va devoir vivre maintenant jusqu'à son procès. Ouais. Ainsi que des systèmes pour surveiller son activité informatique, pour être sûr qu'il ne va pas aller influencer quelqu'un chez Nissan ou chez Renault qui aurait éventuellement des documents compromettants.
Merci Yann Rousseau. À Tokyo, correspondant des Échos et chroniqueur à France Info, ajoutons que le procureur devrait faire appel de cette décision. C'est une lettre aux citoyens européens publiée ce matin dans les quotidiens des 28 États membres de l'Union, du Guardian à El País, en passant par Il Corriere della Sera, Die Welt et Le Parisien. Une lettre dans laquelle Emmanuel Macron détaille son projet pour l'Europe à 3 mois des élections. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
3 grands thèmes dans cette lettre, Laurence: liberté, protection et progrès, et des propositions très concrètes.
Oui, et parmi ces 3 thèmes, l'un est martelé près de 30 fois dans cette tribune. Protéger. Protéger la liberté, Emmanuel Macron appelle de ses voeux une agence européenne de protection des démocraties. Elle luttera contre les cyberattaques, les manipulations, fera interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères. Protection encore contre les offensives commerciales chinoises et japonaises. Le président propose une préférence européenne, notamment dans l'attribution des marchés publics et des investissements stratégiques. Alors, pas question de se murer dans un statu quo. Là, c'est le progrès, l'écologie, la création d'une banque européenne du climat pour financer la transition écologique. Et c'est l'innovation, un budget qui doit à terme rivaliser avec celui des États-Unis.
On retiendra aussi de cette lettre, Laurence, la remise à plat des accords de Schengen sur la libre circulation des citoyens européens.
Et c'est très clairement un appel du pied à droite. droite, Emmanuel Macron reprend une proposition de Nicolas Sarkozy et répond aussi aux souverainistes qu'il accuse d'être un européiste béat. Le président défend certains humanismes européens contre les nationalismes, les populismes, mais il entend, dit-il, la colère des peuples. Les derniers mots de sa tribune donnent le ton. Nous ne pouvons pas être les somnambules d'une Europe amolie.
Merci Laurence Perron du service politique de France Inter. Une lettre qui a déjà convaincu Jean-Pierre Raffarin, sommé par Laurent Wauquiez de choisir son camp. Il annonce ce matin dans le Figaro qu'il soutiendra sans aucune hésitation la liste de la République en marche pour les européennes. À noter également que le parti Les Républicains ne s'est pas associé à la démarche du Parti Populaire Européen, dont il est pourtant membre, dans la procédure d'exclusion ou de suspension du Premier ministre hongrois. 12 partis de la droite européenne ont officiellement lancé la procédure hier pour protester contre les propos outranciers de Viktor Orban en matière d'immigration. La question sera discutée dans 15 jours.
Et on reparle de tout ça avec François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, invité de France Inter à 8h20. Il est 7h06, le plan social est officiellement lancé pour les 850 salariés de Ford à Blanquefort.
La direction du travail a accepté hier soir la deuxième mouture du plan de sauvegarde de l'emploi proposé par le constructeur automobile, un plan qui continue de refuser les syndicats qui ont fait leur compte. Si le PSE prévoit une moyenne de 190 000 euros par salarié, ce budget masque de fortes disparités de situation. Quelques dizaines de salariés seront reclassés dans une usine proche de Blanquefort. 3 à 400 salariés vont bénéficier d'une pré-retraite et 4 à 500 vont être licenciés. Inadmissible pour Vincent Alloz, il est le délégué CGT de Ford Blanquefort et il est interrogé par Fabien Cazot.
C'est une déception forcément, mais c'est pas une surprise du tout, on s'y attendait puisque les moyens juridiques d'empêcher l'homologation sont tellement faibles. La loi est très permissive pour les employeurs, d'autant plus des multinationales puissantes comme Ford, donc tout est fait pour que ils arrivent à leur fin, hein. C'est les lois récentes qui permettent. Donc on va utiliser tous les moyens qu'on a pour combattre la multinationale et cette décision devant tous les tribunaux possibles. On sait que le motif économique que met en avant Ford, il est faux, hein. On avait une entreprise rentable. On a de quoi faire quelques reproches légaux à la multinationale, ce qu'on va faire très rapidement.
Vincent Alloz, délégué CGT de Ford Blanquefort. L'âge moyen de départ à la retraite a encore augmenté l'an dernier dans le secteur privé pour atteindre 62 ans et 8 mois. 63 ans pour les femmes qui doivent travailler plus longtemps pour compenser des carrières hachées. Chiffre dévoilé par l'assurance vieillesse ce matin alors que le haut commissaire à la réforme des retraites se penche en ce moment sur les régimes spéciaux qui pourraient être conservés. Étienne Lefebvre y reviendra dans la chronique écho tout à l'heure à 8h moins le quart. En bref encore, la mobilisation inattendue des 7 départements franciliens, toutes tendances politiques confondues, pour entrer au capital d'Aéroports de Paris. Les départements proposent de racheter 29,9% du capital d'ADP pour éviter une privatisation et peser dans les futures décisions. Avec les 5% que garderait l'État, ils bénéficieraient en effet d'une minorité de blocage.
Quelle justice, Agnès, quelle justice pour les demandeurs d'asile?
C'est la question que posent leurs avocats alors que débute dans une semaine une expérimentation concernant les recours des étrangers de leur première demande. Ces recours, pour les demandeurs habitant les régions de Lyon et Nancy, seront désormais examinés par visioconférence. Décision justifiée par des gains de temps et d'argent, mais Corinne Autouin, dénoncée par les avocats que vous avez rencontrés.
À Montreuil, les juges de la Cour nationale du droit d'asile, à Lyon et à Nancy, les demandeurs d'asile de la région, accompagnés de leur avocat et de leur interprète. Entre les deux, des écrans pour permettre de les juger à distance. Un dispositif inadapté selon Morad Zouine, avocat spécialisé en droit des étrangers à Lyon.
On établit la véracité du récit d'une personne au regard de son comportement à l'audience, de la façon avec laquelle elle raconte son histoire. À travers un écran, déjà, ça va brider la parole de personnes qui ont souffert de sévices, qui ont beaucoup de mal à exprimer ça devant une caméra. C'est ce que je dis aux personnes que je défends, c'est le grand oral de votre vie, de montrer au juge que le récit est réel.
La CNDA met en avant un gain de temps et de confort en évitant aux demandeurs d'asile de se déplacer, une accélération que redoute le bâtonnier de Lyon, maître Farid Hamel.
C'est une déshumanisation de la justice. À Montreuil, les audiences durent parfois sur un dossier une heure ou une heure et demie. Avec une caméra, ça sera 10 minutes, 20 minutes maximum, parce qu'on voit pas bien, parce qu'on n'arrive pas à sentir le dossier, parce que On a l'impression de parler à un mur.
Les avocats de Lyon ont voté la grève des audiences et déposé un recours devant le Conseil d'État. Ils suggèrent à la CNDA d'organiser plutôt des audiences foraines où ce sont les juges qui se déplacent.
Une troisième soirée d'affrontement à Grenoble. Des boules de pétanque et des cocktails Molotov ont été lancés hier soir sur les forces de l'ordre dans le quartier du Mistral. Des voitures ont été incendiées, un feu d'artifice tiré au milieu des immeubles. La colère ne retombe pas après la mort de deux jeunes de 17 et 19 ans samedi soir lors d'une course poursuite avec la police. Un jeune aurait également été blessé à l'œil samedi soir par un tir de LBD. La banque BNP Paribas va financer dès la rentrée prochaine une licence universitaire sur le développement durable à hauteur de 8 millions d'euros sur 5 ans. Acte désintéressé ou stratégie de communication, les élus du conseil d'administration de l'université Paris Sciences et Lettres sont inquiets pour l'indépendance de leur structure. Ils se sont confiés à Sonia Princé.
BNP Paribas finance des énergies fossiles, expliquent des membres du conseil d'administration de l'université PSL. Ils estiment que la banque veut s'acheter une image plus verte avec cette licence sur le développement durable. Baptiste Cecconi, représentant au conseil d'administration, y voit aussi un risque pour l'indépendance de l'université.
Sur le papier, l'université PSL est libre de construire son cursus. A priori, il ne devrait pas y avoir de contrôle possible de la BNP sur le contenu pédagogique. En revanche, le fait qu'il n'y ait qu'un seul mécène fait que le jour où la BNP n'est pas content de la manière dont la licence se passe, il y aura un choix à faire côté présidence, soit museler les chercheurs ou arrêter la licence.
Mais le président de l'université Paris Sciences et Lettres, Alain Fuchs, se veut rassurant. BNP Paribas est déjà un partenaire pour d'autres formations. Le mécénat n'implique aucune contrepartie sur le contenu pédagogique. Et surtout, c'est une chance pour les étudiants.
Si nous n'avions pas cette contribution, pour monter cette licence qui est un projet nouveau, nous ferions comme le font d'autres institutions, universités, écoles, voilà. C'est-à-dire que nous mettrions des frais de scolarité qui seraient sans doute importants, enfin quelques milliers d'euros jusqu'à 10 000 ou 12 000 euros. Il y a des gens qui font ça, hein, si vous voulez, c'est un peu de l'alternative. Hein.
Au contraire, le coût sera celui d'une licence classique, c'est-à-dire 170 euros par an. Une trentaine d'étudiants seront sélectionnés pour la rentrée prochaine.
Lui était le rebelle du lycée pour toute une génération d'adolescents et surtout d'adolescente, amateur de séries américaines. Luke Perry, alias Dylan McKay, dans Beverly Hills, est mort. Il avait 52 ans. L'acteur a été victime d'un AVC. Il s'est éteint à Los Angeles. Ce rôle, il l'avait reconnu, restera de très loin le plus important de sa carrière. Loïc Glory.
Il y avait Brendan, Brenda, Kelly et donc Dylan. Dylan McKay, le rebelle, le beau gosse de la bande de lycéens. Dans la série cultissime des années 90, l'adolescent fait plus que son âge. Il manque clairement d'autodérision. La panoplie complète, en somme, du mauvais garçon briseur de cœur qui fera de lui un pilier de Beverly Hills.
Je peux te demander quelque chose ? Veille sur ta sœur pour moi. Elle est fragile.
Ses histoires d'amour avec Brenda et Kelly, son amitié avec le naïf Brandon, son père, un homme d'affaires richissime et absent, voilà tout ce qui a fait le personnage de Dylan qui apparaîtra près de 200 fois au générique de Beverly Hills. Depuis, il avait enchaîné les rôles de moindre importance, il apparaîtra bientôt à titre posthume dans le prochain Tarantino. Il a également refusé récemment de redevenir Dylan dans un remake de la série qu'il a fait connaître. Je serai attaché à lui jusqu'à ma mort, disait-il pourtant à l'époque, mais c'est très bien comme ça. J'ai créé Dylan McKay, il est à moi.
Luke Perry, que l'on pourra voir dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui doit sortir cet été.
Merci Agnès Soubiran.